Bonjour, ma chère amie. Bonjour, mon cher ami de Luxembourg. Il y a trois personnes qui viennent de quitter à l'instant. C'est pas facile. Les coups de téléphone, je suis pas très à l'heure. Pardon, pardon beaucoup. Vraiment pardon. Voilà, j'ai bien sûr toujours des messages, des prédications d'avance en travaillant la nuit, en travaillant pendant que les autres dorment, c'est très calme. Et puis voilà, parce que toujours à la dernière minute, il y a quelque chose. C'est quelque chose que j'ai appris. Quand on veut enseigner la parole de Dieu, si on ne s'y prend pas longtemps à l'avance, le diable s'arrange pour mettre des peaux de banane, des savonnettes sous les pieds, et puis on dit que des âneries. Alors, mon Dieu, Seigneur, qu'aujourd'hui je ne dise pas d'âneries, que je dise des choses qui te soient agréables, mon Dieu, qui servent aux autres et qui soient honnêtes et droites, selon ton évangile. Amen. Alors, d'où vient la curiosité? D'où vient la curiosité? Est-ce que être curieux, c'est quelque chose qui peut apporter une richesse? Parfois oui. Parfois oui. C'est un élément qui apporte bien des choses. Parfois, la curiosité amène l'infidélité. On change de chemin tout le temps. On change d'avis tout le temps. On passe d'une mode à l'autre. On passe d'une amitié à l'autre, d'un conjoint à l'autre, de philosophie d'une à l'autre. Parfois même, on va jusque renier ceux qu'on aimait. La curiosité fait parfois, nous donne une âme de renégat. Ça, c'est la dérive absolue. On ne tient plus compte des autres. On suit son moi-je. C'est clair que il faut faire attention à la curiosité. C'est quelque chose qui est parfois très intéressant. Moi, j'ai toujours été curieux de nature, je cherchais le pourquoi de tout, hein, depuis que j'étais petit. Mais mon désir était de connaître Dieu. Mon désir était de le chercher. Depuis l'âge de 4 ans, quand j'ai eu une fièvre typhoïde et que j'ai dit à Dieu, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, j'étais sur un petit lit, pas à l'hôpital, à la maison, en disant, Seigneur, mon Dieu, si je guéris, je te chercherai toute ma vie, même si tous les autres sont contre. Et ça, c'est pas de la curiosité, c'est un engagement. Bien sûr, dans ma nature, j'aime apprendre. J'ai été curieux dans beaucoup de choses. Parfois, j'ai fait des sacrées, des mauvaises choses, comme tout le monde. Mais la curiosité m'a aussi enrichi. Et clairement, la soif de Dieu. L'amour de Dieu a quand même été le moteur essentiel. La curiosité ne m'a pas fait tourner en rond comme un chien qui se mord la queue. Voilà. Parce que beaucoup aujourd'hui dans notre société se posent des questions sur toute la philosophie, sur Dieu, posent des questions, puis ils s'engagent jamais. Jamais. C'est ça que j'appelle la curiosité qui ne mène à rien. Alors, d'où vient la curiosité? Genèse chapitre 3, c'est au début de la Bible. Ça commence tout de suite, au début de la Bible. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. L'image du serpent, le serpent n'est pas le diable, hein, comprenons-nous. Mais si vous allez lire Ézéchiel 38, vous verrez que l'archange, qui était dans la gloire, qui devait garder la montagne de l'Assemblée, donc la montagne de Jérusalem où toutes les nations avec Jésus-Christ devaient partager le bonheur et la gloire de Dieu, Satan a envié cet endroit et a voulu prendre la place de Christ. Il a essayé d'abord tout de suite et Dieu l'a jeté à terre. Et l'image d'être jeté à terre, l'image de l'animal qui se traîne à terre, c'est l'image du serpent qui se traîne dans la poussière. C'est simplement pour ça, c'est un être déchu, un archange déchu, plein d'orgueil, qui est très puissant et qui a entraîné un tiers des anges derrière lui à faire du mal. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, donc comprenez bien, c'est non, pas l'animal, mais c'est l'archange déchu, l'archange orgueilleux, qui est plein de ruses. Et figurez-vous, à cet égard, j'ai imprimé une revue qui faite par un vieux pasteur, et c'est quelque chose de très impressionnant. Très impressionnant, très riche, mais celui qui a le courage de le lire, c'est les yeux ouverts sur la ruse de Satan. L'origine, la nature, les conséquences des péchés, de superstition, de sorcellerie et la victoire complète par la croix de Jésus-Christ. C'est un pasteur qui peut-être est décédé maintenant, mais j'ai vu des gens, un homme très riche, un financier, le lire. Il avait fait plusieurs sectes, il avait eu des tas de femmes. Et puis pour finir, il l'a lu, il hurlait de colère quand je l'ai visité 3 jours plus tard, mais ça ne m'impressionne pas. Il n'y a que la colère de Dieu qui peut m'impressionner. Je me suis assis, j'ai attendu, je priais, puis voilà. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleurer, il s'est rendu compte qu'il avait passé 55 ans de sa vie dans les stupidités de la vie, sous l'instigation du plus rusé Satan. Ce livre, il avait fait un déclic formidable, très puissant, et il m'a demandé d'aller trouver aussi un grand trafiquant d'armes, un de ses amis, aussi un chef d'une secte, un gourou d'une secte très puissante, où, avec tous ses excès. Il avait des amis un peu dans des drôles de milieux, c'est le cas de le dire. Et lui s'était retrouvé dans la forêt, dans une petite maison sans fenêtre, sans porte, après avoir perdu 1,5 million d'euros en jouant à la bourse. Et donc, il vivait là, quand quelqu'un de notre église a été le trouver là, parce qu'il l'avait appris par un autre ouvrier sur un chantier. Et donc, il a été le voir, il l'a amené à la maison, puis je lui ai donné cette revue, et 3 jours après, je venais, et il avait donné sa vie vraiment au Seigneur, bien que son caractère, il fallait du temps pour changer, parce que sa nature très orgueilleuse, c'était du sang du Sud, un Espagnol. C'est des gens prêts au combat. Moi, j'y suis aussi, mais de manière calme. Mais c'est pas comme ça pour les gens du Sud. Le calme, parfois, ils le perdent. Bon, de toute façon, je pense que ni au Nord ni au Sud, on a raison de se mettre en colère. Donc, il faut garder le contrôle de soi. Donc le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc c'est clair que toute la création a été donnée à profit, au bénéfice de l'homme et de la femme. Et le paradis terrestre a bien existé. La preuve, c'est que vous trouvez du pétrole et du gaz un peu partout, sous les montagnes, au fond des océans, dans les monts, etc. Vous trouvez toujours du pétrole et du gaz partout, du charbon, le lignite aussi, et une autre forme de charbon meuble et qui sert aux centrales électriques. Il y a donc énormément de signes de ce paradis perdu qui a été enfoui sous des vagues d'eau, un enfouissement sans doute subit, hein, en quelques mois, quelques années. Et tout cela sera putréfié, sans oxygène, ça donnait ce qu'on appelle le pétrole et le gaz. Donc, Satan dit, Dieu a-t-il bien dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Clairement, on peut manger de tous les arbres du jardin, de la création. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un futé. Il a Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse, chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas d'un arbre. Je vous explique. Dans les vieilles traditions ancestrales de l'Inde, de beaucoup de pays, il y a des très grands arbres, comme Baobab ou Baobab, et il y a les faux palétuviers tropicaux, etc. J'ai vu un arbre en Inde où il y avait 15 000 personnes à l'ombre, sous l'arbre. Vous imaginez l'ampleur de l'arbre. J'ai vu cette photo, c'était considérable. Et donc, il y a des arbres qui servaient par leur taille impressionnante et par leur ombrage, ils permettaient de faire des réunions où le roi s'asseyait au pied de l'arbre, comme Bouddha d'ailleurs dans le bouddhisme, et les gens venaient alentour. Ou plus tard, on a mis un trône, évidemment, à certains chefs d'État. Et donc, sous l'arbre, il y avait un lieu d'ombre, un lieu rafraîchissant, et on pouvait discerner toutes les affaires, les conflits, les choses à régler. Le roi réglait les choses, les différends entre les citoyens, entre les nobles, entre les ouvriers, entre les esclaves, etc., entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, entre les commerçants et ceux qui se sont fait plumer par les commerçants. Et donc, c'est un lieu de jugement, un lieu de discernement du bien et du mal par le roi. Le fait de s'approprier l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire « je suis roi », je me mets à la place de Dieu et je décide ce qui est bien, ce qui est mal. C'est quelque chose que Dieu n'a pas proposé à l'homme. Dieu n'a pas proposé à l'homme d'être un législateur, de régler ce qui est bien, ce qui est mal, de faire la loi. Il n'a pas donné à l'homme le droit de juger. D'ailleurs, Jésus a dit, ne jugez pas, ne regardez pas la paille dans l'œil de l'autre, mais regardez la poutre qui est dans votre œil. Donc, clairement, la justice de Dieu, le jugement de Dieu n'appartiennent qu'à Dieu. Et voilà que Satan dit, ben, vous pouvez y goûter. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Et c'est clair que Dieu a dit, il y a un problème avec moi si vous prenez ma place. Si vous prenez de l'arrogance, de l'impertinence, et que vous voulez décider du bien, du mal et du jugement à ma place. Et donc, cette histoire de la pomme à l'arbre, c'est de la blague et tout ça, c'est des bêtises qu'on raconte. En fait, dans la tradition hébraïque, dans la tradition orientale et même d'Asie, dans certains beaucoup de pays, le jugement se faisait sous un arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où seul le roi ou son mandataire pouvait décider de trancher des affaires ou de faire des lois. Donc, quand on a cette image, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas de la pomme de l'arbre. Tu ne te mettras pas à la place de cet arbre et tu ne prendras pas la place sous cet arbre. C'est pas la tienne. Car si tu le fais, tu mourras certainement. C'est-à-dire, tu seras totalement en rupture avec moi et tu ne recevras plus ma justice, tu ne recevras plus ma communication, ma paix, tu ne recevras plus ma gloire. Et clairement, tu vas sombrer. Et dans Romains chapitre 3, Paul résume, il prend plusieurs versets un peu partout dans l'Ancien Testament, il dit ceci, dans Romains chapitre 3, verset 10, juifs et non-juifs, grecs, non-juifs, ont tous prouvé qu'ils sont sous l'empire du péché, donc une force, une domination du péché. Le péché, c'est l'orgueil de prendre la place de Dieu pour la loi divine et pour le jugement divin. Et ce qu'il y a, alors, il est dit ceci, nul homme n'est intelligent, nul homme n'est juste, nul homme ne connaît le chemin de la paix, tous sont du venin de serpent sous la langue, tous sont du sang sur les mains, etc. Et il est conclu, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement pardonné, justifié, déclaré innocent par le sang de Jésus-Christ à la croix. Romains chapitre 3, versets 21-23. Il est clair que Dieu a fait justice à l'humanité au moment où Jésus est mort à la croix. Il a fait justice, il a pardonné quelque chose qui jusqu'alors était impardonnable, n'avait jamais été pardonné. Cette arrogance humaine de prendre la place de Dieu. Et cette grave imposture qui a amené tellement de malheur sur la terre, Jésus est venu pour payer notre dette et pour venir nous donner le Saint-Esprit pour avoir un autre comportement, un comportement où on accepte la loi divine, la loi de l'amour, la loi de la vérité en Jésus-Christ. Alors, vous savez qu'il y a le texte de l'Ancien Testament en hébreu et il y a le texte du Nouveau Testament en grec. Mais il se fait qu'il y a l'Ancien Testament aussi en grec. Vers les années 220, 180 avant Jésus, à Alexandrie en Égypte, 70 rabbins, de manière séparée, ont traduit le texte de l'Ancien Testament en hébreu sous forme grecque, parce que la langue grecque est très, très connue à travers tout le monde. À cette époque-là, jusqu'aux limites de l'Inde, etc., ça couvrait le Pakistan, ça couvrait l'Iran, ça couvrait la Grèce, ça couvrait Rome, ça allait jusque une partie de la Russie, le grec, et aussi en Éthiopie, au Soudan, etc. Et Érythrée, Somalie, le grec était une langue très bien connue, qui servait, comme l'anglais aujourd'hui, de langue véhiculaire. Et donc, il y a le grec facile à parler, courant pour tous les gens qui ne connaissent pas bien, c'est le koiné, comme beaucoup de gens parlent l'anglais, hein, avec 300 mots, on s'en sort, mais si on veut connaître l'anglais littéraire, il y a 2-3 000 mots, ça c'est autre chose. Mais c'est la même chose pour le grec. Le grec, avec toute cette déclinaison et ces milliers de mots, j'ai 2 gros dictionnaires, ça fait 3 fois l'épaisseur d'une Bible, de mots grecs, avec toutes les exceptions, etc. C'est une langue très sophistiquée. Bon, l'Ancien Testament a été traduit en grec. Et dans cet arbre de vie qui est planté dans le paradis terrestre, le mot de l'arbre de vie qui est dans le paradis terrestre, c'est Zulon. Quand on regarde le bois sur lequel est le serpent d'airain, qui représente Satan, qui est crucifié sur le bois, dans le désert, dans le livre des Nombres, quand les Juifs doivent le regarder pour être guéris de leur imposture, eh bien, c'est Zulon. Quand Jésus meurt sur le bois, en grec, c'est Zulon. Quand c'est l'arbre de vie, au chapitre 23, le dernier chapitre d'Apocalypse, c'est Zulon. Évidemment, nous voyons bien que les traducteurs grecs ont bien compris que l'arbre de vie, c'est le Christ. Et le Christ par la croix. Le Christ qui guérit toutes les meurtrissures, toutes les blessures dues au péché, et tous les péchés, et toutes les dettes dues envers Dieu par le péché. Donc, dans le cas ici, l'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre opposé. C'est à partir du moment où il est dans les mains des hommes, de l'homme et de la femme, et qu'ils en font ce qu'ils veulent, c'est l'arbre opposé. Tant qu'il était, c'était l'arbre où Dieu faisait la loi et la justice, c'était pas un arbre opposé à l'arbre de vie. Mais clairement, par l'imposture de Satan, la ruse de Satan, la faiblesse, la curiosité mal placée de Ève et de Adam, l'être humain a sombré dans l'arrogance et a voulu prendre la place de Dieu dans la formulation du bien et du mal et dans la formulation de tout acte de justice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit Satan? La curiosité. Revenons au thème central de ce message, la curiosité. Eh bien, elle est venue au chapitre 3, au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, prendre la place de Dieu, C'est agréable. Encore aujourd'hui, pour beaucoup. Regardez en Occident, c'est incroyable. Et dans beaucoup d'autres pays aussi, bien sûr, le péché existe partout. Mais en Occident, on a laissé libre cours au péché et on a la chance d'avoir un bien-être social, de la richesse, parce qu'on exploite les autres peuples et on vit un petit peu comme des petits rois, tous. À titre d'exemple, je viens d'apprendre par un trader au Luxembourg, un homme que j'ai rencontré il y a quelques jours, un trader au Luxembourg, il me disait que sur une personne sur 15 au Luxembourg est multimillionnaire, c'est-à-dire a au moins 3 millions d'euros dans son compte en banque ou dans son portefeuille. Une personne sur 15. Au Luxembourg, juste ici à côté. Mais il faut savoir qu'il y en a aussi avec 2 millions ou avec 1 million d'euros. Si bien qu'on peut dire qu'il y a 5 personnes sur 15 qui dépassent le niveau de vie de tous les autres et qui ont une folle liberté avec l'argent, qui spéculent en banque, qui investissent, qui font des maisons, qui font du commerce, etc. Et qui, quelque part, dirigent la politique pour se protéger. Alors, vous voyez la conséquence de l'intelligence qui est dévoyée. Paul le dit à Timothée, l'argent est la racine de tous les maux. Et Jésus l'a dit, nous ne pouvons pas avoir deux maîtres, Mammon, c'était le dieu de l'argent des Phéniciens, du Liban actuel, et Dieu, nous ne pouvons pas avoir deux dieux, Mammon, le dieu de l'argent des Phéniciens, ou le dieu de la Bible, le dieu d'Israël. Donc clairement, Ève est tombée dans le plaisir de la curiosité, de l'égarement. Ensuite, son mari est tombé aussi. Aujourd'hui, la situation est très inquiétante pour beaucoup de gens ici en Europe. Bien qu'ils aient à manger, ils aient de l'argent, mais ils sont inquiets de perdre leurs avantages. Mais dans d'autres pays, on a tellement faim, on est tellement privé, l'inquiétude pour perdre quelque chose, on a déjà tout perdu. On vit au jour le jour, et encore, on est content si on a un repas par jour. On est content si on a un petit toit qui tient pas devant la tempête, devant les bourrasques, les vents, devant la pluie. J'ai vu ça au Bénin, en Afrique, il y a des gens, quand ils tombent des douches formidables de la pluie pendant une demi-heure, une heure, l'eau rentre dans les maisons. Mais c'est là qu'ils dorment à terre. Mes chers amis, ils dorment à terre. Je ne peux pas oublier tout ça. Tout ce que je vois, moi, je n'ai pas été par visite touristique là-bas. J'allais pour prêcher, j'allais pour m'approcher des personnes comme elles étaient, dans le jeûne et la prière et la parole de Dieu. Et donc, j'ai vu qu'il y a des êtres humains qui sont dans une situation invraisemblable, et nous avons ici un petit pays de 650 000 habitants, où 5 personnes sur 15, se payent du bon linge, comme on dit, ont vraiment plus qu'il ne faut et ne tiennent pas surtout à le partager. Ils cherchent plutôt à augmenter leur avoir par toutes sortes de truchements. Et il y a ça 15 jours, j'ai discuté avec un monsieur, un Belge, qui a travaillé dans les banques, qui est à la retraite, qui a plusieurs maladies. Et c'est étrange parce qu'il y en a pas mal qui tombent malades après avoir travaillé dans l'argent, dans cet argent malhonnête qui vient du monde entier, qui est volé dans le monde entier. Et cet homme, je lui disais, tu as fait beaucoup de magouilles, ben je n'ai fait que ça. J'ai fait des tricheries d'argent pour des riches, j'ai fait que des tricheries d'argent toute ma vie. Et tu n'as pas de problème avec ça? Oh non. Oh non. Oh non, il est très sympathique, il est très gentil, on se côtoie. Je dois prendre patience et beaucoup prier quand je rencontre des gens pareils, parce que j'ai envie de me mettre en colère. Sachant ce qui se passe, dans d'autres régions du monde et qui est abominable. Mais Dieu, lui, se mettra en colère s'il ne se convertit pas. Le jour de son jugement est déjà fixé. Il faut, bien sûr, que je tende la perche, je lui tende l'évangile. Mon Dieu, que de pécheurs pour qui il faut prier, y compris pour moi. Je suis pécheur aussi. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais quelle intelligence ! Quand nous voyons la guerre de l'Ukraine, je regarde sur mon smartphone le matériel que les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre envoient aux Ukrainiens. Du matériel hyper moderne pour pulvériser les Russes. Et de l'autre côté, les Russes ont du matériel super moderne pour pulvériser les Ukrainiens. Et parmi les Ukrainiens, il y a des experts militaires, américains, anglais, français, belges. Nous ne sommes pas innocents dans tout ça. Voilà l'intelligence des hommes. Rappelez-vous, Romains, chapitre 3, verset 10, ils ont tous du sang sur les mains, du venin de serpent sur la langue. Nul ne cherche la paix, nul ne cherche Dieu, nul l'intelligent. Parce que faire ce mal, c'est une absence d'intelligence. Absolu. Tout ce que Adam et Ève ont voulu gagner, ce n'est que du négatif. C'est une faillite de l'être humain, une faillite de l'histoire humaine qui se continue. La faillite de l'histoire humaine se continue. Et dans tous ces hommes et ces femmes, il y en a qui acceptent l'évangile de Jésus, la personne de Jésus, qui ont foi en Jésus et dans sa justice divine, et dans la venue de son royaume, et dans le brisement des puissances démoniaques qui dirigent ce monde. De quel côté êtes-vous? Pour le savoir, continuons à lire, Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, évidemment ils ont voulu connaître le bien et le mal et le fixer eux-mêmes, ils connurent qu'ils étaient nus, donc privés de la gloire de Dieu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, ils se donnent une apparence pour être beau, pour être mieux présentable, si vous voulez, entre eux. C'est clairement ce que les hommes cherchent. Ils cherchent à être présentables et à se plaire les uns aux autres. D'où les modes, d'où les vêtements, d'où toutes les coutumes selon les pays pour les vêtements, etc. Et tout cela, ils s'en firent des ceintures, c'est-à-dire la ceinture représente ce qui tient la personne et qui représente la force, la vérité, l'absence de peur. Ils se donnent une apparence de vérité, une apparence de force dans leur apparente beauté, leur apparente intelligence. Mais ils ont déjà échoué. La faillite est là. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ce que je voudrais vous dire, chers amis, c'est que Dieu est bon, il est fidèle envers l'homme. Et il s'adresse à l'homme, il parle. Dieu parle à l'homme. C'est la grandeur de la parole divine, c'est de parler à l'homme déchu et à l'homme sauvé, à la femme déchue, à la femme sauvée, aux enfants, aux vieillards, à tout le monde. La voix de l'Éternel se fit entendre, qui parcourait le jardin vers le soir. L'Éternel a bien sûr fermé le jardin, mais quand Jésus est monté au ciel, vous savez bien, dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau qui est immolé a 7 cornes. Il a la puissance totale, l'omnipotence divine. Il est Dieu. Il a les 7 yeux. Il a l'omniscience. Il a la science, l'intelligence absolue, divine. Et il a les 7 esprits, ce qui veut dire il a la plénitude du Saint-Esprit. Et il circule sur la terre. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse chapitre 5. Christ, par son esprit, par son intelligence, visite le monde. C'est clairement pour cela que dans Jean chapitre 12, Jésus dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc aujourd'hui, oui, Dieu sauve des hommes et des femmes partout pour les faire sortir de leur manque d'intelligence, leur ignorance, de leur orgueil et de leur égarement, qu'ils prennent pour de l'intelligence. L'homme est dans un cachot tout noir et il croit voir, il croit entendre. Pourtant, dans Ésaïe 42, la bonne nouvelle, c'est que les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, que les boiteux vont marcher. Ça veut dire que l'humanité sera guérie de l'horreur de son infirmité due au péché. Par grâce, par cadeau. Et donc, quand vous voyez ici en Occident des gens qui font les ressources énergétiques, le zen, l'imposition des mains, le magnétisme, c'est parce qu'ils veulent guérir l'homme, mais par les forces de l'homme, par les forces de la nature. C'est niette. Dieu n'a jamais programmé cela. C'est par le sang de Christ, c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'homme est guéri, que l'homme retrouve sa condition première en face de Dieu, que la porte du ciel est ouverte pour une communication, pour une relation avec Dieu vivante. Et aujourd'hui, ici en Europe, au Canada, beaucoup aussi, très fort, surtout francophones, et aux États-Unis, on s'égare, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et maintenant, nous avons logé les Ukrainiens. Je peux vous dire aussi que les Ukrainiens que nous avons reçus ont la même culture que nous, la même culture d'égarement, sans Dieu. Mais fort heureusement, ce qui se passe, c'est que depuis 5-6 ans, sur le site de notre église, il y a quand même 1450 visiteurs sur le site en Ukraine, pour un peuple de 44 millions, alors qu'il y a le même nombre pour un peuple de 185 millions, la Russie, ou de 70 millions, 70 millions pour la France, 1300 visiteurs. Pour la Chine, beaucoup plus. Mais vu qu'ils sont 1,3 milliard, c'est l'Ukraine qui est en tête en proportion de son nombre d'habitants. Il y a donc des hommes qui ne veulent plus se cacher de Dieu et veulent rétablir la relation. Il y a donc des hommes qui saisissent l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, où Dieu est venu vers l'homme pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Il y a donc sur terre des hommes et des femmes qui ne se cachent pas loin de la face de Dieu. Genèse 3:8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà. Beaucoup se cachent encore aujourd'hui, mais de temps en temps passent la tête et ils sont curieux. Mais ils se cachent quand même. Pour ne plus être dans cette situation de la curiosité et de la cachotterie, de la cachette, du cachot même, il faut avoir réellement soif de Dieu et crier à lui et demander à Jésus de venir dans sa propre vie. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué la fois d'avant dans le message précédent. D'où vient donc la curiosité? Je vous l'ai expliqué. Prenons maintenant un texte de Jean, chapitre 14, verset 17. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et qu'il n'a pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc clairement, l'être humain, tel qu'il fonctionne, sans réellement avoir donné sa vie à Jésus, ne peut recevoir l'Esprit divin de vérité. Il ne peut pas le connaître. Il ne le voit pas, il ne le comprend pas, il ne peut pas s'en approcher. Il faut réellement confesser sa nullité, son néant. Il faut confesser, Seigneur mon Dieu, je suis un zéro sans toi. Veux-tu bien me pardonner parce que jusque maintenant, j'étais content d'être un gros zéro, un néant. Seigneur mon Dieu, je sais que tu m'aimes, que Jésus est venu sur la croix pour moi et qu'il m'a pardonné. Peux-tu m'instruire, Seigneur? Peux-tu me donner ton Saint-Esprit? Peux-tu laver mon âme et mon cœur par la puissance de la croix, par le divin Sauveur Jésus-Christ? Oui, je le peux et je le veux, dit Dieu. Si j'ai demandé clairement au Seigneur, en vérité, en esprit de vérité, alors l'œuvre de Dieu commence en moi. Alors, il faut continuer dans l'honnêteté. Il faut continuer dans le souci de la vérité. Il faut continuer à recevoir l'esprit de vérité pour qu'il s'installe à jamais. Et cela, c'est en lisant l'Évangile tous les jours. Les quatre évangiles où on parle de Jésus et ses enseignements sont là pour nous donner l'esprit de vérité en plénitude. Jean, chapitre 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc, chers amis, celui qui veut connaître la vérité et recevoir l'Esprit Saint doit aimer Dieu. On ne peut pas confesser Dieu et confesser son péché simplement pour être sauvé. Il faut l'amour pour connaître Dieu. Il faut l'amour pour recevoir l'Esprit Saint. Et il faut l'amour des paroles de Jésus. Il faut l'amour de sa parole tous les jours. Alors, la curiosité alimente, bien sûr, par rapport à la vraie honnêteté envers Dieu, la curiosité est quand même propre à notre vie. La curiosité, dans un premier point, permet d'approfondir des tas de choses, mais elle ne nous donnera pas une connaissance plénière, ni de Dieu, ni de la réalité du monde, de rien. On sera toujours insatisfait. Elle a ses limites. La curiosité, bien sûr, est un élément positif dans la vie. C'est un élément de dynamisme. Bon, ça c'est un premier point que je voulais vous dire. Mais la curiosité, si elle engendre le dynamisme, elle peut engendrer autre chose. La curiosité peut engendrer la stupidité. On n'aime que les choses qui n'ont pas de sens. Les choses vaines qui passent. Mais on les aime comme si c'était super important. On confond l'essentiel et le secondaire. Donc la curiosité peut alimenter la stupidité. Elle peut alimenter même le mépris de ceux qui aiment la vérité et qui vont plus loin que la curiosité. La curiosité peut alimenter la raillerie. La curiosité peut alimenter l'opposition à ceux qui cherchent vraiment ou qui ont déjà reçu l'Esprit de Dieu. Saint de vérité. La curiosité, c'est le vide, en fait. Il y a un vide. C'est le vide, c'est l'échec. La curiosité est alimentée parfois par la présomption narcissique de la personne. La présomption narcissique. Dans cela, cette curiosité peut trouver satisfaction dans l'ésotérisme, dans les francs-maçons, dans la Rose-Croix, dans des sectes. Mais pas dans la vraie foi chrétienne. Dans la vraie foi chrétienne, l'Esprit Saint nous remplit de l'Esprit de vérité. C'est pas la présomption qui nous remplit. Et l'Esprit de vérité nous rend humbles comme le Seigneur Jésus. Ni or, ni argent, ni banque, ni cathédrale, ni basilique, ni armée, ni orgueil, ni folie de sexe, mais propreté en amour. Le troisième point, la curiosité peut alimenter, parce qu'il y a des gens très doués, très doués. J'ai étudié pas mal de gens, de philosophes, pendant plusieurs années de ma vie. Elle peut donner des grandes idéologies, des grands livres, des grands auteurs de livres. Nietzsche, Kant, Kierkegaard, Kafka, Marx, Hegel, etc. Il y en a plein. On peut en trouver des centaines. La curiosité peut donner des idéologies. Il y a des gens qui sont tellement intelligents, ils vont faire des livres et tout le monde va s'engouffrer dedans. Ils vont faire des conférences et tout le monde va gober ça comme du bon pain, comme du bon lait, comme un bon petit vin. Les idéologies, les théologies, les mythologies reflètent un esprit de curiosité qui ne mènera pas à la vraie connaissance, à la vraie relation divine éternelle avec Dieu. La seule voie, c'est Jésus, le petit chemin étroit, la petite porte basse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a un grand conflit dans l'humanité, dans le cœur des hommes. Il y a un grand conflit parfois même dans le mien. Il faut que je combatte avec la parole de Dieu et la prière pour garder mon chemin avec le Seigneur. Nul ne peut se vanter d'être intelligent. Nul, sauf Dieu. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Il vous aimerait parce que vous seriez conforme, vous auriez les mêmes attitudes, les mêmes propos, la même culture, etc. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il y a donc un conflit inévitable entre ceux que Jésus a appelés et qui ont répondu et l'esprit du monde. Et Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « J'ai vaincu le monde. Courage. Vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Il y a donc un duel à mort. C'est un duel à mort. Si on amenait Jésus à la croix, on peut mener un chrétien à la mort physique, à la mort violente. Au lion, avec Néron, ou dans certains pays, couper la gorge, etc. Mettre le feu à la maison, les frapper, les tabasser. Le conflit est réel entre le monde et les disciples de Jésus. Et c'est un combat qui donne la vie. Il se passe dans la vie éternelle, dans la vie du Saint-Esprit pour le chrétien. Tandis que l'autre qui persécute, et c'est un combat qui le mène encore plus à la mort et au jugement éternel de Dieu. Donc quand quelqu'un souffre pour Christ, il sait qu'il appartient à la vie éternelle, qu'il ressuscitera. Quand quelqu'un fait souffrir un vrai chrétien, pas un faux, un vrai chrétien, il creuse son trou, sa fosse encore plus pour le jour du jugement. Le vrai chrétien doit donc prier pour celui qui le persécute. Le vrai chrétien doit pouvoir donner un bon témoignage à ceux qui le font mourir, le font souffrir, qui le privent de maison, le privent d'emploi, etc. Chers amis, ici en Europe, il est temps d'aimer la lumière, la véritable lumière. On a goûté aux ténèbres depuis à peu près 100 ans. Il est temps de revenir et d'aimer la vraie lumière. Le 18e siècle, siècle des Lumières. Le 19e siècle, siècle de l'industrialisation, siècle de la création du prolétariat, des masses ouvrières confinées dans les petites maisons qui travaillent comme des esclaves et de la richesse des riches industriels qui ont fomenté des guerres et qui en fomentent encore aujourd'hui. La vraie lumière n'est pas apparue en Europe au XXe ni au XXIe siècle. Un des beaux symboles de la franc-maçonnerie, à une tombe que je vais montrer à des amis chrétiens, c'est une tombe avec le nom, etc. Et puis, il y a des flambes, il y a le faisceau avec la lumière, et la lumière est retournée vers le bas. Quatre torches retournées vers le bas. La lumière n'est pas aimée dans les sectes. La lumière de Christ. Alors, chers amis, l'amour de la vérité est-il le moteur, la soif de votre esprit humain? Votre esprit, dit-il, au plus profond de lui-même, votre esprit, dit-il, au fond de lui-même, dans votre fort intérieur, cherchez ma face, comme dans le psaume. Cherchez ma face. Mon esprit dit à mon âme, cherchez ma face. C'est dans un psaume. Oui, il est temps de dire, je choisis de chercher Dieu, même si tout le monde est contre. Psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Voilà des paroles, chers amis, qu'il faut dire à Dieu, sincèrement, au pied de votre lit, ou assis sur votre lit, et ou à table, en prenant la Bible, ou en auto. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate dans Jean chapitre 19? Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité dans ce monde. Ben oui, parce que la vérité n'est pas dans le monde. Il n'y a que le mensonge et l'horreur de la fausse intelligence. Psaume 27, verset 3. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ça, c'est la force de la foi. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, donc comme du feu, puissamment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, dans son Christ. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, le Christ. Verset 6. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, la tente de Dieu, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Alors, Seigneur, je le fais. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ô Éternel. Chers amis, lisez le psaume 27. Surtout le verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Là, on n'est plus dans la curiosité. On est dans les profondeurs de la vérité qui me travaille pour rencontrer Dieu. Et les profondeurs de mon âme sont travaillées par Dieu même, déjà. À moins que je ne formule à mon esprit, je veux connaître Dieu, je veux connaître Jésus. Les profondeurs de mon cœur sont déjà travaillées puissamment Puisque je suis comme de l'argile dans les mains du potier, je suis donc travaillé sans cesse par Dieu. Et dans Ecclésias chapitre 3, Dieu a dit, j'ai mis un dessein, un désir d'éternité dans le cœur de chaque homme. Peut-être voulez-vous la référence, alors je vais chercher. Ecclésiaste. Peut-être voulez-vous la référence. C'est parfois nécessaire. Quand au début on ne connaît pas bien la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Ecclésias chapitre 3, c'est écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. Verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ecclésias chapitre 3, verset 11. L'homme ne comprend pas l'œuvre que Dieu opère en lui, mais s'il se laisse faire, il comprendra un jour. Dieu ne donne pas la perle au pourceau, il veut d'abord nous tester. Et si après, il donne ce qu'il nous a testé. Mais on ne peut pas faire semblant. Le vrai don dans Dieu vient d'en haut. On ne peut pas le créer artificiellement. Sauf si on a un imposteur, un faux docteur, un faux prophète. Ça, ceux-là ont l'art. Deuxième question. Dieu a-t-il fondé en vous, en votre personne, sa gloire pour confondre l'ennemi? L'ennemi confronte le péché. Dieu a-t-il fondé en vous, déposé une fondation solide, sa gloire, la gloire de Christ, pour confondre votre ennemi, votre péché? Psaume 8, verset 3. Psaume 8, verset 3. Psaume 8, verset 3, je commence au verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi ou vindicatif. Par la bouche des enfants. Dimanche passé, dans la foule, ma femme et moi, des enfants sont venus vers nous, pouvoir échanger à propos de Dieu. Des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Sans qu'on l'ait prévu à notre programme. Ce sont des enfants qui étaient libres. Leurs parents n'étaient pas là. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Avez-vous cette âme fraîche qui va à la rencontre de Jésus. Cette âme souveraine qui n'est pas encore humiliée, bafouée, conditionnée, trompée, détournée par le monde. Une âme fraîche, sereine et belle, comme Dieu veut faire avec tous les enfants, et si c'était possible, si le péché du monde ne venait pas les envahir, si c'était possible, toute leur vie jusqu'à l'éternité. Alors j'ai prévu une belle Bible pour ces enfants, que je leur apporterai à 45 km de chez moi. Prenons d'autres versets. Le psaume 18, verset 25. L'Éternel, psaume 18, verset 25. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture. Parce que cet homme dit, je ne me suis pas écarté des lois de Dieu, de ses ordonnances. Elles ont toujours été devant moi. verset 23. J'étais sans reproche envers Dieu. Je me suis tenu en garde contre mon péché. Donc clairement, on voit qu'ici, dans le psaume 18, à partir, vous pouvez tout lire, mais à partir du verset 20, il y a une grâce reconnue. Mais le fait de reconnaître une grâce est encore une grâce supplémentaire. Verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'endroit, tu agis selon la droiture. On pourrait traduire autrement cela dans certaines paraboles de Jésus. Quelqu'un avait 5 deniers, 5 talents, et Dieu, parce qu'il a vu qu'il avait fructifié, en donne encore 5 autres. L'autre en avait 3, il les avait fructifiés, mais il en donne encore 3 autres. Mais à celui qui n'a rien, il retire. Donc clairement, nous voyons ici que Dieu sait qui nous sommes et ce que nous faisons de notre vie. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur des lieux élevés. Vous pouvez lire tout le psaume 18. C'est grandiose. Psaume 20. Psaume 20, verset 8. Ceux qui s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Vous voyez, c'est un parallélisme synonymique, comme on appelle ça en hébreu. Ceux qui s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, verset 9, eux, ils plient et ils tombent. Alors, je reprends la deuxième partie du verset 8. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Excusez-moi pour la Wi-Fi qui, il y a tous les Ukrainiens, il y a du monde chez moi, ça tire, hein. Alors, peut-être dans le village, c'est l'heure aussi, où tout le monde tire. Alors, dans le psaume que je vous lisais, le psaume 20, verset 8 à 15, vous avez des beaux textes. Formidable. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Verset 9, eux ils plient, ils tombent. Fin du verset 8, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, donc relation vivante avec Dieu. Nous tenons ferme et restons debout. Ok? Verset 8 et 9. Alors, allons dans un autre psaume, le psaume 25. C'est un peu dommage de devoir arrêter, toujours, parce que il y a encore beaucoup de citations, ce sera pour la fois prochaine. Psaume 25, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vous voyez bien que le croyant, parfois, il souffre, mais il parle à Dieu. Il n'est pas tout seul. Verset 18, « Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. » Ça arrive, des choses pareilles. Et dans certains pays, c'est énorme. Et nous, ici, en Europe, on a des ennemis invisibles, souvent, dans le monde des ténèbres. « Garde mon âme, sauve-moi, que je ne sois pas confus. » Que je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toute sa détresse. Délivre-nous aussi, évidemment. Car nous sommes dans la filiation d'Israël par Jésus-Christ. Chers amis, je voudrais arrêter bientôt. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. L'admiration de Dieu, l'amour de Dieu dépasse mon moi-je et dépasse la curiosité. L'amour pour Dieu a été répandu dans nos cœurs par le don du Saint-Esprit. Romains 5, 5. Un homme est venu tout à l'heure à la maison, juste avant que je commande l'enseignement. C'est ça que j'étais en retard. Je voudrais bien faire partie de votre club. C'est un homme qui n'a pas beaucoup de culture biblique, mais il sait ce qu'il voulait dire. Je lui ai dit, je vais passer chez toi, on va en parler. Je voudrais bien faire partie de votre club. Vous imaginez à quel point des humains n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont sur le cœur. Mais moi, je décode. Je cherche, en priant, ce que la personne veut me dire. Je voudrais faire partie de votre église. Je voudrais faire partie du peuple de Dieu. Mais je dis, nous avons déjà commencé à lire la Bible ensemble, il faut la continuer. Quand tu lis régulièrement la parole de Dieu, tu vas rentrer dans le club sans t'en rendre compte. Car Dieu t'y fera rentrer, mais pas moi. Voilà ce que j'ai dit. Chers amis, c'est la même chose pour vous, pour moi. Alors, évidemment, j'ai pris quelques versets autre part. Évidemment, Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Et puis, je dois terminer. Excusez-moi. Il est décidément trop bavard, le petit pasteur. Jacques 1, 13, 15. Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Jacques 1, 13, 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, car il ne tente lui-même personne, il n'est pas habité par la tentation ni le mal. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, c'est-à-dire qu'on l'a aimée, hein, ça fait comme un enfant en nous, hein, une grossesse en nous, la convoitise, elle enfante le péché, la séparation avec Dieu. Et le péché étant consommé, hein, je passe aux actes, ou même sans les actes, il est vraiment en moi, je l'aime, j'y adhère, produit la mort. Dieu ne veut pas la séparation. Dieu ne tente pas un homme pour qu'il tombe loin de lui. Dieu agit toujours pour que l'homme, la femme, s'approche de lui, vienne vers lui et connaisse son amour, sa vérité, sa justice. Jamais ne pensez jamais que Dieu veut fourvoyer un homme. Alors, entre humains, il y a plein de ruses pour fourvoyer les autres. Exactement. Premier épître de Pierre, l'apôtre Pierre, chapitre 5, verset 5. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens dans la foi. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce, il pardonne aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'il le voudra. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, donc équilibré, raisonnable, patient. Veillez, donc veillez, c'est-à-dire tournez-vous vers Dieu. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà les paroles de l'apôtre Pierre. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps sur terre, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Comme dans Éphésiens chapitre 6, Paul le dit, fortifiez-vous en Christ. C'est vraiment deux frères dans la foi. Chers amis, je vous quitte aujourd'hui. Je prie pour vous. Si vous croyez encore trouver quelque chose dans le monde, ça ne durera pas. Cet enfant de 9 ans qui s'est approché de nous il y a quelques jours, dimanche, ce brave petit Simon disait, je lui demandais à quoi sert l'homme. Il m'a dit à rien du tout. Je dis, il sert à quelque chose. S'il aime Jésus, alors il va appliquer son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors il servira les autres. Et Jésus a dit un autre commandement, tu le connais? Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attention, il a dit ceci, plus exactement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Mon cher petit, tu vois que l'homme peut servir? Alors tu es découragé, tu as 9 ans, et tu as déjà posé un jugement, tu ne t'y trompes pas, le monde ne t'apporte rien, et il ne t'intéresse pas, le monde des humains. N'est-ce pas? Eh bien, tu cherches Jésus. Je te donnerai, tu iras dans une semaine à telle maison dans le village, où j'ai mon fils, et tu iras chercher un paquet. Évidemment, ce paquet, ce sera une Bible pour enfants, pour lui et pour sa sœur. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, chers amis? Priez pour lui. Il aura 15, 20 ans, 12 ans. Il va peut-être aller sur Internet, correspondre avec moi. Il va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Pourvu qu'on ne le trompe pas, il y a une différence fondamentale entre la religion et la relation avec Jésus, avec Dieu. On peut avoir une religion sans avoir de vraie relation avec Dieu, avec Jésus. Mais quand on a